Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Les disciples avaient demandé à Jésus comment prier. Christ leur avait donné un schéma de prière pour qu'ils sachent non seulement comment prier, mais aussi pour qui et pourquoi prier. Ce modèle de prière est ce que l'on appelle communément le Notre Père. Et c'est dans ce contexte qu'il ajouta quelques précisions importantes sur un autre sujet. Un autre sujet aussi étroitement lié à notre attitude. Nous nous reporterons aujourd'hui pour commencer à Matthieu 6. Matthieu chapitre 6 et le verset 16. Lorsque vous jeûnez, et notez bien ici dès le départ qu'il dit « lorsque », il ne dit pas « si vous jeûnez », mais il dit « lorsque vous jeûnez ». Cela implique automatiquement que c'est quelque chose que nous faisons, plus ou moins régulièrement. Ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose que l'on fait si on en a envie ou pas. C'est simplement préciser que nous le faisons. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. S'ils disent cela, c'est qu'apparemment, il y avait des gens qui faisaient cela et probablement qu'ils le font encore, qu'ils prennent un air triste. Comme les hypocrites. Les hypocrites. Intéressant, n'est-ce pas? Qui se rendent le visage tout défait, probablement qu'ils se mettent les cheveux dans tous les sens, et pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, à nouveau, quand tu jeûnes, non pas si tu jeûnes, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Élément important, les gens autour de nous n'ont pas besoin de savoir que nous jeûnons. Mais ton père, qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui le voit dans le secret, te le rendra. Frères et sœurs, le jeûne fait-il partie de votre arsenal spirituel? Jeûnez-vous souvent? Combien de fois l'an? J'espère que ce n'est pas seulement pour le jour des expiations, quand cela nous est ordonné. Que représente le jeûne pour nous? Mohandas Karamchand Gandhi était né le 2 octobre 1869 à Porbandar, d'une famille de riches commerçants du Gujarat, dans le nord-ouest de l'Inde britannique. Il avait fait des études à Londres afin de devenir avocat. Mais une fois de retour en Inde, ses affaires n'avaient pas été fructueuses. Aussi, il avait décidé, en mai 1893, d'aller tenter sa chance en Afrique du Sud, où se trouvait une communauté d'Indiens des Indes. Affecté par divers mauvais traitements racistes de la part des Blancs, comme de devoir, lors de l'un de ses déplacements, descendre d'un compartiment de train de première classe, il avait alors décidé de défendre des immigrants indiens. Gandhi avait élaboré une doctrine s'appuyant sur la non-violence, la maîtrise de soi et le respect de la vérité. En vertu de cette optique, Gandhi préconisait la désobéissance passive et collective pour lutter contre les diverses discriminations et il avait remporté un certain nombre de succès, pour le moins spectaculaires, face aux Britanniques. Cela lui avait néanmoins valu plusieurs séjours en prison. De retour en Inde en janvier 1915, Gandhi fut surnommé par le grand poète indien Tagore Mahatma, mot qui signifie « grande âme ». Il avait accédé à la présidence du Parti du Congrès et s'était battu pour l'autonomie de son pays, puis pour son indépendance. prônant en même temps son autosuffisance économique, le retour aux techniques traditionnelles, puis l'émancipation des femmes et des intouchables, les hors castes de l'hindouisme, qu'il appelait les Harijans ou gens de Dieu. Il aimait l'Inde profonde des villages et préconisait le retour à une économie traditionnelle. À 7, il pratiquait la chasteté dans son ashram des environs d'Ahmedabad, dans le nord-ouest du pays, et il tissait le coton sur son rouet pour subvenir à ses besoins et fabriquer ses propres vêtements. Gandhi préconisait la non-participation, le refus des décorations, le boycottage des produits anglais, et il prescrivit même la grève de l'impôt dans un district du Gujarat. Cette grève tourna à l'émeute et Gandhi, par souci d'éviter les violences, interrompit le mouvement en février 1922. Il entama une grève de la faim dans son ashram et devint très faible, mettant sa vie en danger pour convaincre ses compatriotes d'interrompre les actes de violence. Il fut emprisonné. En 1930, la marche du sel, comme on l'appela, lui valut un autre séjour en prison, mais il semble qu'à ce stade, les Anglais se soient mis à contempler l'idée d'engager l'Inde dans la voie de l'indépendance. L'année suivante, Gandhi fut invité à Londres à une table ronde destinée à débattre de la possibilité d'indépendance pour l'Inde. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, les Britanniques engagèrent l'Inde dans le conflit, sans même se soucier de consulter les représentants de la colonie. Tout au plus, le Premier ministre Winston Churchill promit-il aux Indiens, à l'issue de la guerre, un statut de dominion similaire à celui du Canada ou de l'Australie. Gandhi finit par se lasser des compromis. Le 8 août 1942, à Bombay, le Mahatma lança un mot d'ordre radical à l'adresse des Britanniques. « Quittez l'Inde !» Une réaction ne tarde pas à se produire. Plusieurs chefs du parti du Congrès furent arrêtés et Gandhi fut une nouvelle fois incarcéré. Il allait demeurer en prison jusqu'en mai 1944. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques décidèrent de se retirer de l'Inde. L'Union indienne célébra son indépendance le 15 août 1947. Le vice-roi Mountbatten remit les pouvoirs au Premier ministre Nehru. Néanmoins, il y eut scission avec le Pakistan, en grande partie à cause de Mohammed Ali Jinnah, un avocat musulman chiite qui dirigeait la Ligue musulmane et prônait la création d'un État musulman indépendant. Une guerre religieuse sanglante s'ensuivit, faisant plus de 400 000 morts et entraînant le déplacement de part et d'autre des nouvelles frontières de près de 20 millions de personnes. Le Mahatma, au soir de sa vie, dans son dernier combat, entama une autre grève de la faim pour essayer de convaincre hindous et musulmans de cesser de s'entretuer. Rien n'y fit. Gandhi mourut assassiné par un extrémiste qui souhaitait la création d'un État hindou, l'Hindoustan, au lieu de l'Inde laïque et multiconfessionnelle. Gandhi allait expirer en prononçant les mots « Mon Dieu ». Après toute une vie consacrée à l'émancipation de l'Inde, Gandhi eut la douleur de voir son pays se déchirer dans des guerres religieuses sanglantes entre hindous et musulmans. Lui-même, hindou, n'avait cessé de plaider pour la réconciliation des deux communautés, ce qui lui avait valu d'être accusé de trahison par les fanatiques de sa propre communauté. La pratique de l'hindouisme est marquée par plusieurs périodes de jeûne. Le jeûne le plus observé, Ekadashi, est suivi à peu près deux fois par mois, l'onzième jour de chaque lune, ascendante et descendante. La célébration à l'honneur de Shiva au début de l'année est une autre occasion importante. Durant les mois de juillet et août, beaucoup d'hindous suivent un régime végétarien et jeûnent, je dis cela entre guillemets, et jeûnent les lundis et samedis jusqu'au soir. Aussi, de nombreuses femmes hindoues jeûnent, et à nouveau je mets cela entre guillemets, le lundi pour avoir un bon mari. Nous constatons d'ores et déjà que les gens ont diverses idées ou conceptions du jeûne. En fait, beaucoup pensent que jeûner consiste à se priver de viande, comme beaucoup de gens dont nous venons parler. D'ailleurs, je me souviens de ma mère qui était catholique et qui jeûnait le vendredi, en mangeant du poisson au lieu de la viande. Pour elle, c'était cela, jeûner. Mohandas Gandhi, qui vécut de 1869 à 1948, a joué un rôle capital dans l'accession à l'indépendance de l'Inde, en utilisant systématiquement les principes de non-violence et de désobéissance civile. C'était un fervent adepte du jeûne par conviction religieuse. Et cette pratique lui permettait, je cite, « de se libérer des contraintes du corps ». Mais il l'utilisait aussi comme moyen de pression sur le plan politique. Il le fit à plusieurs reprises. Il entama plusieurs grèves de la faim pour protester contre les violences commises notamment entre hindous ou entre hindous et musulmans. Gandhi pratiquait le jeûne, ne mangeant et ne buvant rien, généralement. J'ai choisi son exemple parce qu'il évoque pour beaucoup l'exemple d'un homme très influent qui pratiqua le jeûne pour obtenir gain de cause. Mais ces jeûnes étaient-ils des jeûnes ou des grèves de la faim? Je vous pose la question. Dans une semaine, nous célébrerons le jour des expiations. Qu'est-ce qui nous différencie, nous autres chrétiens, des millions d'autres croyants, d'autres religions, dans ce monde, qui pratiquent eux aussi un jeûne? Gandhi avait recours au jeûne. Il prônait la non-violence, la maîtrise de soi et le respect de la vérité, de très bonnes qualités, de très bons points. Ne faisons-nous pas cela, nous aussi, ou n'est-ce pas certains de nos objectifs? C'était pour lui un noble idéal, évidemment, que d'essayer de se libérer des contraintes du corps. Par contre, il se servait aussi du jeûne comme moyen de pression sur le plan politique, comme nous l'avons vu. Qu'en est-il de nous? Ce qui est intéressant, c'est qu'il est question soit de jeûne, soit de grève de la faim. Bien des gens ne voient aucune différence entre ces deux termes. Et vous, frères et sœurs? Sans doute, les jeûnes non bibliques sont-ils souvent, ni plus ni moins, que des grèves de la faim. La grève de la faim est généralement une forme de chantage. En ce sens qu'on ne cherche pas à s'humilier, mais à se faire valoir, à se faire entendre. Dans une semaine, ferons-nous une grève de la faim? Ou jeûnerons-nous comme notre Père Céleste souhaite que nous le fassions? Sera-ce un jeûne auquel il prendra plaisir, frères et sœurs? Le prophète Ésaïe décrit l'attitude du peuple de son temps. Et, sous bien des aspects, il décrit aussi le peuple à notre époque, n'est-ce pas? Nous nous retrouvons souvent, lorsque nous lisons les écrits d'Ésaïe, lorsqu'il parle du peuple de son temps. Le peuple s'était éloigné de Dieu. Il souffrait du fait de ses péchés. Et il reprochait à l'Éternel de ne pas l'écouter, même quand il jeûnait. Je voudrais que nous nous reportions ensemble à Ésaïe chapitre 58 et le verset 3. Ésaïe chapitre 58 et le verset 3. Dans ce chapitre sur le jeûne, une sorte de dialogue est écrit, opposant le peuple qui s'interroge et offrant la réponse qu'a Dieu à ces questions que le peuple pose. Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard? C'est le peuple qui parle ici. Je me demande combien parmi le peuple jeûnait réellement, et combien faisait en fait une grève de la faim. La réponse de l'Éternel est fort significative. Nous lisons ensemble, « Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer, et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. » Notez bien ce petit morceau de phrase, « pour que votre voix soit entendue en haut ». Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Dieu interroge le peuple. Est-ce là le peuple auquel je prends plaisir? Et pour nous, à l'approche de la fête des expiations, n'est-ce pas le genre de question que nous voudrions nous poser, nous aussi? Quel est le genre de jeûne qui fait plaisir à l'Éternel? Lorsque je vais jeûner, est-ce que cela sera agréable aux yeux de l'Éternel? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelles un jeûne? Et c'est intéressant ici parce que, dans un sens, c'est ce que nous faisons, mais Dieu ici semble donner l'indication que, bon, est-ce que c'est réellement sur cela que vous vous concentrez? Autrement dit, sur le physique plutôt que le spirituel? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, verset 9, et l'Éternel répondra. Autre petit morceau de phrase intéressant. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, « Me voici. » Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Quel était le problème? Il est clair que le peuple ne pensait qu'à lui et était hautain. Son attitude me fait penser à ce qu'a dit jadis l'un de nos bons auteurs français, Voltaire. Voltaire, qui était un philosophe français du XVIIIe siècle, a écrit que, je cite, « L'amour-propre est un ballon gonflé de vent dont il sort des tempêtes quand on fait une piqûre ». Je répète, l'amour-propre est un ballon gonflé de vent dont il sort des tempêtes quand on y fait une piqûre. L'amour-propre n'est-il pas l'antithèse de l'humilité et du jeûne? Quand nous jeûnons, comme nous venons de le lire notamment dans Ésaïe 58, 4, n'est-ce pas pour que notre voix soit entendue en haut? Et si nous jeûnons comme le veut l'Éternel, n'avons-nous pas la promesse? Alors tu appelleras et l'Éternel répondra, au verset 9. Le jeûne auquel l'Éternel prend plaisir est un jeûne pratiqué avec la bonne attitude. Jésus nous a donné une parabole dans laquelle il décrit deux attitudes. L'une bonne, l'autre mauvaise. Christ avait parlé à ses disciples de son retour. il leur avait donné la parabole du juge inique, pour leur montrer que Dieu écoute et entend les prières de ses enfants et qu'il leur fera justice. Puis il leur donna la parabole suivante. J'ai donné ici un peu d'indication pour le contexte, n'est-ce pas? Et dans ce contexte, donc, il nous donne la parabole suivante, Luc chapitre 18, et nous allons nous y reporter, Luc chapitre 18 et le verset 9. Luc 18, 9, il dit encore cette parabole. Pourquoi ? En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Quand nous lisons cela, il devrait y avoir un petit signal d'alarme dans notre tête. Ah, parce que ça, c'est le contraire de l'attitude du jeune, n'est-ce pas ? Quelqu'un qui se déclare juste, qui s'estime juste, et qui ne fait aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Les publicains, c'était certainement les gens qui étaient les plus méprisés à l'époque, parce que c'était les gens qui percevaient les impôts. Un publicain, c'était un percepteur d'impôts dans notre monde moderne. Alors, vous aviez un pharisien d'un côté et un publicain de l'autre. Deux individus totalement différents de par leur culture et leur façon de voir les choses et leurs activités. Soi-disant pharisien, c'était quelqu'un qui était religieux. Et puis, d'un autre côté, vous aviez quelqu'un qui était loin d'être religieux, dans l'esprit des gens du moins. Le pharisien, debout, priait en lui-même, « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Et il devait y avoir un certain mépris dans sa voix, ce publicain. « Je jeûne deux fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Voilà un individu qui se targuait de jeûner deux fois par semaine. Mais il semble que ce soit surtout pour se faire remarquer et admirer, et non pour plaire à Dieu. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Quelle est la conclusion de Christ ? Verset 14. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison, justifié devant Dieu, sous-entendu, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Et là, à nouveau, cela devrait nous faire réfléchir un peu. Car lorsque nous jeûnons, est-ce que nous nous élevons ou est-ce que nous nous abaissons ? Vous et moi, nous savons très bien que c'est un jour où nous nous abaissons, nous nous humilions devant Dieu. Depuis le début du XXe siècle, on enregistre de nombreuses grèves de la faim. En 1905, les suffragettes anglaises incarcérées pour avoir revendiqué le droit de vote pour les femmes firent la grève de la faim dans les prisons. La police tenta de les obliger à manger, mais cela ne les arrêta guère. Le gouvernement répondit sans succès avec la loi dite « chat et souris », « Cat and Mouse Act », officiellement « The Prisoner's Temporary Discharge for Ill Health Act 1913 ». Quand une gréviste était trop faible, elle était relâchée, puis réincarcérée une fois sa vie hors de danger. La plus longue grève de la faim a duré 94 jours à la prison de Cork en Irlande en 1920 par des membres de l'armée républicaine irlandaise. Et je doute fort que c'ait été un jeûne total, c'est-à-dire absolument sans aucune nourriture. Je pense qu'il n'aurait pas survécu à une telle durée. La grève de la faim suscitée a ensuite été utilisée par plusieurs personnalités en Europe, dont Lanza del Vasto, notamment pendant la guerre d'Algérie, pendant le Concile Vatican II, et la lutte des paysans du Larzac. Louis Lecoing a souvent utilisé cette méthode qui a abouti à la reconnaissance du statut d'objecteur de conscience. Un épisode très dur a également eu lieu dans la lutte opposant les prisonniers irlandais de l'IRA, provisoire ou assimilés au Royaume-Uni, sous le gouvernement de Madame Thatcher, aboutissant à la mort de 10 personnes en 1981, le plus célèbre étant Bobby Sands. Il est aujourd'hui souvent utilisé par les réfugiés ou des déboutés du droit d'asile, comme l'église Saint-Joseph à Paris pendant l'été 1991, pour forcer l'obtention d'un permis de séjour. La grève de la faim est aussi pratiquée par des groupes désireux d'assurer une couverture médiatique, une couverture à leurs idées ou de faire pression sur un gouvernement, un pouvoir. Il s'agit également d'une pratique dans le milieu carcéral, pour protester contre les conditions de détention. En 1998, le Congrès de la jeunesse tibétaine organisait une grève de la faim de 6 Tibétains à New Delhi, du 10 mars au 15 mai, qui avait pour objectif la réouverture par les Nations Unies de la question tibétaine, la nomination d'un envoyé spécial et d'un rapporteur spécial de l'ONU pour le Tibet. Après 49 jours, le groupe composé de 6 personnes, dont une femme âgée de 62 ans, fut évacué de force par la police indienne, le jour précédant la visite en Inde d'un chef de l'armée chinoise. Du 7 mars au 14 avril 2006, Jean Lassalle, député français des Pyrénées-Atlantiques, a suivi un jeune de plusieurs semaines pour protester contre le risque de départ d'une entreprise japonaise dans sa circonscription vers une circonscription voisine. Il a cessé son jeûne contre les garanties que l'entreprise resterait dans les lieux. Le 17 avril 2017, à l'appel de Marwan Barghouti, 1578 détenus palestiniens ont entamé une grève de la faim pour protester contre les conditions de vie dans les prisons israéliennes. Ils réclament entre autres une augmentation des visites de la Croix-Rouge et de leurs familles, ainsi que de meilleurs soins médicaux. Un accord est trouvé le 26 mai 2017 entre Israël, l'autorité palestinienne et la Croix-Rouge. 834 détenus refusaient alors de s'alimenter. J'espère que ces quelques exemples nous permettent de comprendre la différence existant entre un jeûne et une grève de la faim. Entre un jeûne et une grève de la faim, d'une part, et des jeûnes souvent pratiqués dans ce monde, et le jeûne auquel notre Père Céleste prend plaisir. Il y a jeûne et jeûne. Puis jeûne et grève de la faim. Gandhi était à 7. Autrement dit, il n'était pas à 8, mais seulement à 7. Un ascète, c'est quelqu'un qui pratique l'ascétisme. J'espère que vous me suivez. Je fais ici un jeu de mots. À 7, à 8. Ça se prononce de la même façon. Oh, je ne pouvais pas rater celle-là. L'ascétisme, A-S-C-E, accent aigu, T-I-S-M-E, l'ascétisme est une discipline volontaire du corps et de l'esprit, cherchant à tendre vers une perfection, par une forme de renoncement ou d'abnégation. Notez bien qu'il ne s'agit pas de rechercher la perfection en obéissant à Dieu, mais en pratiquant une forme de discipline, de renoncement et d'abnégation, et c'est purement physique et individuel, et cela n'a rien à voir avec Dieu. L'apôtre Paul eut affaire à des ascètes, auxquels il fait allusion dans son épître aux Colossiens, notamment dans le 2e chapitre. Il y a souvent des ascètes et ils ont un souci de vouloir se faire passer pour humbles. Colossiens 2:18 parle d'une apparence d'humilité, n'est-ce pas? Il est question de vain orgueil, de pensée charnelle, de principes élémentaires du monde. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Reportons-nous ensemble à ce passage, ce serait une bonne chose. Colossiens chapitre 2, verset 16, Colossiens chapitre 2 et le verset 16, je pense que c'est intéressant pour nous. Colossiens chapitre 2 et le verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Apparemment, dans l'Église, il y avait des problèmes. Les gens se jugeaient à cause de cela. Il y avait des gens qui étaient des végétariens et d'autres qui mangeaient de la viande, et il y avait une sorte de compétition. Ou au sujet d'une fête. Il y avait aussi compétition de ce côté-là. Ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Mauvaise traduction, mais laissez cela au corps de Christ, laissez cela à l'Église, autrement dit. Nous avons une lettre explicative pour ce passage sur notre site, si cela vous intéresse. Que personne sous une apparence d'humilité, intéressant, n'est-ce pas, pour nous qui aujourd'hui étudions le sujet du jeûne. Que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, et là on s'aperçoit, et ce ne sont pas les bons anges, c'est une doctrine de démons, effectivement, dont il était question ici, que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. À nouveau, nous avons un article qui explique ce passage plus en détail. Je n'entrerai donc pas en détail aujourd'hui, faute de temps. Verset 19, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. À nouveau, c'est Dieu qui nous donne cet accroissement, c'est grâce à son Saint-Esprit que nous pouvons croître. C'est Dieu qui nous donne la croissance. Si vous êtes mort avec Christ, évidemment c'est une image ici, il ne parle pas à des gens qui sont morts, il parle à des gens qui sont vivants, même chose pour nous. Mais si vous êtes mort avec Christ, mort au péché, si vous voulez bien, si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? À nouveau, il y avait des gens qui essayaient d'imposer aux membres de l'Église ces préceptes ascétiques. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Interdiction pour toutes sortes de choses. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Il est donc bien précisé ici qu'il ne s'agissait pas de l'Évangile ni de la voie chrétienne, mais que c'était des doctrines humaines. Ils ont en vérité une apparence de sagesse. Ah, vous voyez, on revient à ce terme apparence, à l'extérieur, ce qui se voit. Une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire. Un culte, intéressant, n'est-ce pas? Un culte volontaire. C'était pour ces gens une sorte de religion. Les ascètes ont leur religion. L'ascétisme est une religion. Un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. C'est de cela qu'il est question quand vous parlez d'ascétisme. C'est cela que les ascètes pratiquent. Un culte volontaire de l'humilité, soi-disant humilité, ce n'est pas réellement la vraie humilité à nouveau, et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle. Vous voyez ce que Paul dit ici? C'est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Vous aviez des gens qui probablement vous disaient « Ah, moi, je maîtrise mon corps, hein. Je le tiens assujetti. » Bon, c'est bien de tenir son corps assujetti, mais ces gens allaient trop loin. Pour eux, c'était une religion et c'était une discipline. Mais à nouveau, pas une discipline pour obéir à Dieu, mais pour s'enorgueillir de sa maîtrise de soi. Comme quoi la maîtrise de soi peut aussi devenir une religion si c'est poussé à l'extrême. Bon, il est question donc d'ascètes dans ce passage. Je ne pense pas que Gandhi était ainsi. Évidemment, il était ascète, mais je ne pense pas que c'était ce qu'il cherchait. Je pense que c'était un homme très sincère. Mais Dieu soit son juge. Mais cela décrit beaucoup d'assets, n'est-ce pas, ce que nous venons de lire. Mais pourquoi jeûner? Je ne parle pas seulement ici du jour des expiations, qui est obligatoire, étant donné que Dieu nous dit de l'observer une fois par an, mais je parle de tout jeûne spirituel, de vrai jeûne. Dieu ne nous demande pas de faire une grève de la faim. C'est très important ce point. Dieu ne nous demande pas de faire une grève de la faim. Il y a une grande différence entre un jeûne selon l'Éternel, un jeûne biblique, un jeûne chrétien, et une grève de la faim. Une énorme différence. Qui dit grève, dit revendication. Les Français sont très forts là-dessus. Je ne sais pas combien de fois, lorsque nous sommes revenus en France, nous voyagions pour la fête ou pour une des fêtes de l'Éternel, et très souvent, il y avait une grève quelque part. Les Français sont très bons pour les grèves, mais pourquoi ? Il s'agit de revendication et de chantage, finalement. Alors, qui dit grève dit revendication et manifestation. Mais Dieu nous ordonne de jeûner une fois par an, un jour précis, en l'occurrence le jour des expiations, et vous entendrez parler de ce jour des expiations plus en détail dans une semaine. Mais il nous dit aussi de jeûner volontairement. Rappelez-vous le passage que nous avons lu tout au début de ce message, « Lorsque vous jeûnez ». Il y a l'implication que c'est quelque chose que nous pratiquons le jeûne. C'est quelque chose que nous faisons régulièrement, lorsque vous jeûnez. Alors Dieu nous dit de jeûner volontairement à d'autres moments de l'année, ce qui exige de notre part une certaine dose d'honnêteté quant à notre état spirituel, mais aussi une forte dose d'humilité, n'est-ce pas? En quoi consiste un jeûne? La Bible nous le dit, le jeûne biblique consiste à s'abstenir de nourriture et de tout liquide pendant un certain temps. Généralement, c'est 24 heures, mais quelquefois, vous le faites un peu moins de 24 heures. C'est vous qui décidez de cela, mais il faut quand même que ça soit significatif. Si cela ne requiert aucun effort de notre part, eh bien, peut-on réellement dire que c'est un jeûne? On se souviendra de l'histoire d'Esther, qui prit la défense du peuple juif dont elle faisait partie, quand Aman chercha à tous les détruire. L'oncle d'Esther dit à cette dernière d'intervenir auprès du roi, pour empêcher le massacre. Et Esther décida alors de jeûner avant de se présenter devant le roi, et elle demanda au peuple de faire de même. Nous avons dans Esther, le livre d'Esther, un exemple de jeûne. Qu'est-ce que c'est le jeûne? Alors Esther, chapitre 4 et le verset 16. Esther, chapitre 4, verset 16. Il y a d'autres passages qui montrent ce que c'est qu'un jeûne, mais je ne citerai que celui-là aujourd'hui, car c'est un des passages très clairs. Alors Esther, il se trouve juste avant Job, si vous cherchez. Esther, chapitre 4 et le verset 16. « Va, assemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi. Ne mangez ni ne buvez de 3 jours, tant la nuit que le jour. Et pour moi et mes servantes, nous jeûnerons de même, puis je m'en irai ainsi vers le roi, bien que ce soit contre la loi, et s'il arrive que je périsse, je périrai. » Elle avait beaucoup de courage. J'ai cité la version Osterval, incidemment, ici. Bon, il est clair d'après ce passage que jeûner dans la Bible équivaut à se priver de nourriture et de liquide. Une fois encore, nous jeûnons pour que notre voix soit entendue en haut. Isaïe 58, verset 4. Pour que, lorsque nous appelons, l'Éternel nous réponde. Verset 9 du même chapitre. Autrement dit, pour que nos prières soient exaucées, mais plus encore, pour que notre relation avec notre Père Céleste s'approfondisse ou soit rétablie. Les grèves de la faim mettent l'accent sur le « moi ». Elles sont souvent médiatiques et publiques. Elles sont généralement synonymes de revendication, de protestation, de chantage. Elles consistent à attirer l'attention d'autres êtres humains. Elles ne sont pas par définition pieuses, et je parle ici de vraie piété. Le mot qui résume le mieux l'objet du jeûne est le mot humilité. Humilité. David indique cela dans le psaume 35. Psaume 35. Psaume 35, verset 13. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Nous devons donc être certains que, si nous jeûnons, nous avons cette attitude. Contrairement aux jeûnes de ce monde qui sont, dans la plupart des cas, des grèves de la faim, le jeûne auquel l'Éternel prend plaisir est un jeûne lors duquel nous nous humilions. Le fait de ne pas manger et de ne pas boire produit déjà en nous un affaiblissement physique. Nous avons moins de force. Nous devenons plus vulnérables, plus fragiles, plus dépendants de la nourriture physique, n'est-ce pas? Il y a trois choses intéressantes à noter dans ce psaume de David. Premièrement, il revêtait le sac. Autrement dit, en langage moderne, il ne se parait pas de ses plus beaux habits, mais d'un habit très ordinaire. Deuxièmement, il humiliait son âme ou son corps. Mais pas seulement son corps, aussi son cœur, ses pensées, son attitude. Et troisièmement, il priait la tête penchée et non la tête haute, la tête penchée. Et cela évoque l'humilité. Psaume 109, maintenant nous sommes dans les psaumes. Psaume 109 et le verset 24. Psaume 109, verset 24. « Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et mon corps est épuisé de maigreur. » Christ nous a donné une parabole sur la discrétion et sur l'humilité. Je voudrais que nous nous y reportions. Jésus étant rentré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, fit une guérison d'un homme hydropique qui se trouvait là, incidemment, aux grandes dames des pharisiens, qui cherchaient à le condamner. « Mais c'est pas possible qu'il fasse là le jour du sabbat, non mais c'est contre la loi, etc. etc. » Puis il adressa une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Il leur dit, Luc 14, verset 8, Luc chapitre 14 et le verset 8, il est question ici aussi d'humilité. Luc 14 et le verset 8. Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire « cède ta place à cette personne-là ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Christ a dit la même chose dans sa parabole sur le pharisien et le publicain, rappelez-vous, que nous avons lu dans Luc 18. La vanité, l'orgueil, trait de caractère satanique, est en abomination à l'Éternel. Proverbe chapitre 16, verset 5. Proverbe chapitre 16 et le verset 5. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Contrairement aux grèves de la faim relativement courantes dans ce monde, nous devons offrir à l'Éternel de vrais jeûnes. Joël chapitre 2, verset 12. Joël chapitre 2, le prophète Joël chapitre 2 et le verset 12. Juste avant Amos. Joël 2, 12. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. » Intéressant ici, des jeûnes, des pleurs, des lamentations. Tout cela se tient, cela va ensemble, n'est-ce pas? Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Il y a trois mots clés dans ce passage. Revenez à moi. Revenez à moi. Et Dieu nous dit de déchirer nos cœurs et non nos vêtements. Autrement dit, de ne pas faire tout un spectacle extérieur, mais de réellement nous repentir. C'est de cela qu'il est question. Pouvons-nous dire, comme le faisait David, « Qui est-ce qui connaît ses fautes commises par erreur? Purifie-moi de mes fautes cachées. » Ça, c'est dans le psaume 19 et au verset 13. Psaume 19, verset 13. Et je lisais ici la version Martin. « Nous soucions-nous aussi des fautes que nous avons commises et qui ont peut-être blessé un autre être humain sans que nous le sachions ? Cherchons-nous sincèrement à pallier même cela afin de devenir parfait comme notre Père Céleste est parfait ?» 1 Jean chapitre 1, verset 9. 1 Jean chapitre 1 et le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Avons-nous tendance à nous fier un peu trop à nous-mêmes, à nous imaginer que nous ne nous débrouillons pas si mal que cela après tout? Ou sommes-nous constamment à la recherche de moyens nous permettant de nous purifier à fond? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Il y a tout un contexte, c'est intéressant ce qui est écrit ailleurs dans ce chapitre, mais c'est l'un des versets que l'on peut presque... C'est une perle. C'est un verset qui se tient par lui-même. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 2 Corinthiens chapitre 6, nous étions en Corinthiens, quelques pages plus loin. 2 Corinthiens chapitre 6 et le verset 4. 2 Corinthiens 6 et le verset 4. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations et dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Dans les jeunes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, etc. Paul ici mentionne qu'il jeûnait assez souvent. Il parle du jeûne au pluriel. Il a dû jeûner un certain nombre de fois, les jeunes. Dans le contexte ici, apparemment, c'était quelque chose de courant pour lui. Sommes-nous meilleurs que Paul ? N'avons-nous pas besoin de jeûner quelques fois par an? Parlant de faux ministres qui semaient le trouble dans le troupeau de Christ, Paul déclare dans 2 Corinthiens 11, en révélant un peu de son palmarès, « Sont-ils ministres de Christ? Je parle comme un imprudent. Je le suis plus qu'eux, en travaux davantage, en blessures plus qu'eux, en prison davantage, en mort plusieurs fois. » J'ai reçu des Juifs par 5 fois 40 coups, moins un. J'ai été battu de verge 3 fois, j'ai été lapidé 1 fois, j'ai fait naufrage 3 fois, j'ai passé un jour et une nuit en la profonde mer. En voyage souvent, en péril des fleuves, en péril des brigands, en péril de ma nation, en péril des gentils, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril en mer, en péril parmi les faux frères. En peine et en travail, en veille souvent, en faim et en soif, en jeûne souvent. En jeûne souvent. Dans son palmarès, Paul parle de nombreux jeûnes. Sommes-nous meilleurs que Paul, plus spirituels que lui? Le jeûne fait-il partie de notre panoplie spirituelle, frères et sœurs, de notre armement spirituel? Quand nous avons des décisions importantes à prendre, frères et sœurs, il est souvent avisé de jeûner afin d'être plus proche de Dieu. Possible, et de ce fait prendre la meilleure décision. C'est ce que faisaient les apôtres. Un exemple, Actes chapitre 13. Actes chapitre 13 et le verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Le jeûne est infiniment plus saint, plus profond qu'une simple grève de la faim. En cela, il n'a rien à voir avec une grève de la faim. Certes, comme Gandhi, nous cherchons un peu à nous libérer des contraintes du corps. Comme Gandhi, nous essayons le mieux possible de pratiquer la non-violence. Comme lui, nous recherchons la maîtrise de soi et le respect de la vérité. Mais nous ne cherchons pas à protester. En aucun cas, nos jeûnes devraient être des chantages, comme si nous essayions d'obliger Dieu à se plier à nos exigences, à notre volonté, bien au contraire. Nous ne cherchons pas particulièrement à obtenir gain de cause, comme le faisaient Gandhi et beaucoup d'ascètes dont j'ai cité les exemples. Gandhi utilisait le jeûne comme moyen de pression sur le plan politique. Il préconisait la désobéissance passive et collective pour lutter contre les discriminations. Un vrai chrétien ne fait rien de tel. Si nous jeûnons, c'est parce que nous pensons comme Paul, qui disait, et nous nous reporterons maintenant à 2 Corinthiens chapitre 4, nous pensons comme Paul, nous raisonnons comme Paul. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Et tous ces ascètes là-bas qui ont leur religion à eux. Cette religion de la maîtrise de soi, soi-disant, oui, mais ils n'arrivent pas à maîtriser beaucoup d'autres choses dans leur vie. Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Si nous mesurons la pleine teneur de l'Évangile, si nous avons pleinement conscience de sa puissance et de ce que notre Dieu accomplit ici-bas, nous allons irrémédiablement nous humilier par le jeûne en essayant de nous approcher le plus possible de la nature, du caractère, de la merveilleuse perfection et des pensées de Christ, notre modèle spirituel parfait. L'Évangile ne nous dit certes pas de jeûner, mais dans son message, en filigrane, il est question de cette notion d'humilité qui est nécessaire à notre gloire future. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Éphésiens chapitre 2 et le verset 1. À nouveau, essayons de penser comme Paul. Et je lirai ici la version Martin, Éphésiens chapitre 2, verset 1. Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés. Mort, évidemment, c'est une image à nouveau, c'est une façon de parler. Ils n'étaient pas morts physiquement, ils étaient bien vivants, ils leur parlaient. Mais ils étaient morts, spirituellement parlant. Quand on pêche, on est mort spirituellement parlant. Vous étiez mort dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, parmi lesquels nous vivions tous autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de la grande charité dont il nous a aimés, lorsque nous étions morts dans nos fautes, nous a rendus à la vie ensemble en Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. À nouveau, c'est une image, là. Ce n'est pas encore arrivé, mais potentiellement parlant, c'est comme si c'était déjà fait. Afin de montrer dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Isaïe 58, je voudrais que nous reportions à nouveau à Isaïe chapitre 58. et au verset 3. Ésaïe chapitre 58 et le verset 3. Revenons à Ésaïe 58. Nous avons débuté avec Ésaïe 58, en quelque sorte, ce n'était pas le premier verset, mais le premier passage, mais c'était le début de notre pensée. Il y a ce dialogue à nouveau qui est décrit là entre le peuple et Dieu. Et Ésaïe 58 est un bon chapitre pour le jeune. Il nous place dans la bonne optique, dans la bonne direction spirituelle. Ésaïe chapitre 58, verset 3. Et je lirai dans la version Osterwald cette fois-ci. « Pourquoi avons-nous jeûné sans que tu y prisses garde et affligé nos âmes sans que tu le connusses ? Voici, dans votre jour de jeûne, vous faites votre volonté et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour quereller et disputer et pour frapper du poing méchamment. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Pour que votre voix soit entendue en haut. » Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir ? Autre phrase clé, le jeûne auquel l'Éternel prend plaisir. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir ? Un jour où l'homme afflige son âme ? Est-ce de courber sa tête comme un jonc, de se coucher sur le sac et la cendre ? Appelleras-tu cela un jeûne, un jour agréable à l'Éternel ? N'est-ce pas plutôt ici le jeûne auquel je prends plaisir ? Qu'on dénoue les liens de la méchanceté, qu'on délie les courroies du joug ? Qu'on envoie libre les opprimés et que tout joug soit brisé ? N'est-ce pas que tu partages ton pain avec l'affamé, que tu fasses entrer dans ta maison les malheureux errants, que tu revêtes ceux que tu vois nus et ne te détournes pas de ton semblable ? Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison se montrera promptement, ta justice ira devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et il dira, me voici. Si tu ôtes du milieu de toi l'oppression, le doigt levé insolemment et les paroles criminelles, si tu fais part de ta subsistance à l'affamé et si tu rassasies l'âme affligée, ta lumière se lèvera dans l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel te conduira continuellement, il te rassasiera dans les lieux arides, il donnera la vigueur à tes eaux, et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne trompent jamais. Les tiens rebâtiront les antiques ruines, tu relèveras les fondations des anciens âges, on t'appellera le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. » Si tu retiens ton pied au jour du sabbat pour ne pas faire ta volonté dans mon saint jour, si tu appelles le sabbat tes délices, est-ce ce que nous faisons, et honorable ce qui est consacré à l'Éternel, si tu l'honores plutôt que de suivre tes voies, de faire ta volonté et de dire des paroles vaines, alors tu trouveras des délices en l'Éternel. Je te ferai passer par-dessus les hauteurs du pays, je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et nous poursuivons. Il y a des chapitres et des versets qui ont été ajoutés par les hommes, mais dans l'original, ça se suivait. Là, Ésaïe continue sa pensée. « Voici, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer, ni son oreille trop pesante pour entendre. » Mais ce sont vos iniquités qui ont fait la séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont vos péchés qui lui font cacher sa face pour ne plus vous entendre. On peut avoir l'impression, en lisant ce passage, que l'Éternel n'a que faire de nos jeûnes. Or, les autres passages que nous avons lus montrent que le jeûne est un outil spirituel important pour tout chrétien. Dieu veut simplement que nous fassions de la bonne façon, que ce ne soit pas juste un spectacle. Que ce ne soit pas juste pour la frime, comme on dit. Soyons bien conscients de tout cela, frères et sœurs. Je voudrais que nous nous reportions pour terminer à Éphésiens chapitre 6, verset 12. Je pense que c'est bon pour nous à ce stade. Éphésiens chapitre 6 et le verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. L'une de ces armes est le jeûne. Paul cite ensuite plusieurs autres armes puissantes, mais elles ne sont pas les seules. comme l'indiquent d'autres déclarations venant de lui, de Paul. Dans une semaine, nous célébrerons la fête des expiations, nous jeûnerons. Gardons présent à l'esprit les enseignements que nous avons reçus aujourd'hui, tirés directement de la parole de Dieu. Et n'oublions pas non plus de pratiquer le jeûne plus souvent, afin de nous rapprocher de notre grand Dieu d'amour. Je vous souhaite à tous une bonne fin de sabbat. Je vous dis bon courage, au revoir et à bientôt, sans oublier de vous souhaiter à tous une bonne fête des expiations, une excellente fête des tabernacles et un excellent dernier grand jour.